En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre curiosité préférée. Oh Thomas, bonjour,
comment
vous êtes beau.
Merci, c'est gentil.
On dirait que vous êtes assis sur votre 31, c'est ça l'expression?
Je m'attendais à une vanne, en général ça suit le compliment. Hein, c'est ça, ça va.
C'est jamais gratuit chez moi.
Les vannes pourries, on arrête en 2017,
allez,
on est d'accord.
Promis, promis. Allez, promis.
Alors au programme, qu'est-ce qu'on a?
Bonjour à vous, venez avec nous. On a rendez-vous ensemble ici chez
Winnie. On va faire plus ample connaissance avec les ours. Alors, pas vraiment Winnie l'ourson, mais plutôt l'ours blanc, l'ours brun, l'ours à lunettes. Et les oursons trop mignons aussi nous ausculteront ces plantigrades qui nous ressemblent beaucoup.
Mais avant cette auscultation, donc, on va faire immersion avec une journaliste dans un sous-marin nucléaire d'attaque.
RTL. Ça faisait partie de mes idées de reportage en tant que journaliste de défense.
Il existe toutes sortes de sous-marins. Des sous-marins gigantesques, des sous-marins de poche. Certains sont rapides, d'autres particulièrement mobiles.
Au départ, je n'ai pas spécialement pensé d'ailleurs à leur demander « je veux être la première femme à ». Je voulais simplement être la première journaliste à passer toute la navigation en réalité en mission.
Certains peuvent descendre à plusieurs kilomètres de profondeur, d'autres faire le tour de la planète sans jamais refaire surface.
Les choix ont été faits dans des conditions que je ne connais pas totalement, donc tant mieux.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Enfermé dans un tube d'acier qui flotte au plus profond des eaux noires dans un sous-marin nucléaire d'attaque, c'est l'expérience de notre invitée, la journaliste Nathalie Guibert. Vous publiez « Je n'étais pas la bienvenue » aux éditions Paulsen. Ce titre, il est fort, « J'étais pas la bienvenue ». On n'avait pas envie de vous à bord ?
Je pense qu'on ne pensait pas qu'un jour quelqu'un comme moi le demanderait. Et donc effectivement, c'est au point de départ, non. Bien sûr, les femmes ne sont pas les bienvenues jusqu'à présent.
Parce que vous étiez une femme, pas parce que vous étiez journaliste ?
Un peu des deux. Parce que les journalistes sont bon, certes accueillis dans les armées et accueillis dans la marine, mais quand même, on est quelque part toujours un petit peu l'ennemi au bout du compte.
On a essayé de vous dissuader ? D'embarquer ?
On m'a fait subir tout un tas de petites épreuves, plus ou moins discrètes. Et puis on m'a dit, vous savez, ça va être très très dur, Madame Guibert. Donc préparez-vous. Et je pense qu'on a essayé de tester ma volonté, surtout, en fait.
Il ressemblait à quoi, ce sous-marin ? Est-ce que vous pouvez nous faire les présentations ? Vu de
alors,
l'extérieur, déjà.
Ce sous-marin qui est un vrai tube de métal, qui est parmi les plus petits du monde, en fait. Il fait 73 mètres de long, il fait 7 mètres de large. Et la France construit des tout petits sous-marins pour des tas de raisons, dont des raisons un peu d'économie aussi. Et donc dans cette boîte, vous avez en gros 1 mètre carré habitable par personne. Donc c'est un espace extrêmement réduit avec des espaces de vie qui n'ont été en fait conçus qu'après qu'on ait mis tout ce qu'il fallait pour que ça marche, c'est-à-dire d'abord la propulsion nucléaire, puis après les armes, et puis après tout ce qu'il faut pour fabriquer de l'air et de l'eau, etc. Et puis au bout du compte, on s'est dit, tiens, faudrait peut-être mettre des marins, et donc il restait 1 mètre carré par personne. Voilà.
Nathalie Guibert, vous étiez la seule femme à bord, ça veut dire qu'il n'y a pas d'officier femme dans les sous-marins en France aujourd'hui ?
Il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans la sous-marinade en règle générale depuis 100 ans qu'elle existe. Les premières femmes dans les sous-marins nucléaires sont arrivées aux États-Unis il y a à peine 4 ans. Elles vont arriver dans les sous-marins britanniques aussi. Elles sont quasiment prêtes.
Et en France ?
En France, elles vont arriver seulement 3 pionnières l'année prochaine.
Donc là, elles sont quoi ? Elles sont en formation ?
Elles sont en formation, voilà. Il y a eu un petit appel à candidature.
Pas beaucoup de réponses finalement ? Pas beaucoup d'intéressés parmi les femmes ?
Peu de candidates, parce qu'en réalité, il n'y a pas assez de viviers. La marine dispose de très peu d'officiers femmes qui ont une carrière opérationnelle en mer et qui seraient susceptibles de se lancer dans l'aventure sous-marine.
Mais est-ce qu'elles savent déjà, ces femmes, quelle place elles vont pouvoir avoir dans un sous-marin ? Parce que si on en veut pas, c'est qu'il y a une raison. Elles vont vivre où, comment, elles vont avoir leur petit espace à elles, parce que c'est ça qui compte aussi, l'intimité.
La question, effectivement, c'est qu'à partir du moment où on dit on accepte les femmes, il faut qu'il y ait des locaux séparés, des sanitaires et des locaux de vie séparés. Ça, c'est la loi. Oui. Donc, on a commencé par les sous-marins les plus gros dans lesquels on pense pouvoir aménager des espaces. Elles seront, effectivement, je pense, toutes les trois dans un local séparé. Mais ça a
donc,
été...
elles seront, pardon, je vous interromps, elles seront toutes les trois dans le même sous-marin ?
Alors ça, je ne sais pas encore.
C'est pas sûr,
je
ne pense pas. Où elles vont être éparpillées, en quelque sorte.
Je ne sais pas encore ce qui a été décidé.
C'est pas la même chose, hein, être la seule femme de tout un équipage ou arriver avec deux autres jeunes femmes qui sont dans la même situation.
Absolument. Bon, ce seront des officiers, je pense qu'elles seront vues comme des officiers. Mais longtemps, il y a eu, des prétextes plus ou moins scientifiques pour refuser l'accès des sous-marins aux femmes.
C'est-à-dire ?
Oui, c'est-à-dire que les médecins disaient, attention, les femmes sont beaucoup plus sujettes à des problèmes médicaux en raison de la teneur un peu plus élevée qu'à l'extérieur en dioxyde de carbone. Et puis, vous savez, vous respirez le même azote dans le sous-marin pendant 3 mois. Et donc ça, c'est très, très mauvais pour les femmes. Il y avait des études scientifiques à l'appui qui semblaient prouver ça. Bon, évidemment,
on
jamais...
On vient au temps de Montgolfier et des premiers vols en ballon où on interdisait aux femmes de monter à bord en disant que leur poitrine allait exploser.
Exactement.
Est-ce que la possible grossesse d'une femme à bord...
Alors ça peut être un vrai problème.
C'est une vraie question.
Au nom du principe de précaution, on peut toujours estimer que peut-être un jour, effectivement, si une femme est enceinte, elle risquerait d'avoir des soucis. Bon, sauf que, honnêtement, je pense que le jour où une femme, officier ou pas d'ailleurs, dans un avenir proche, décidera de faire une carrière sous-marine, elle aura suffisamment de volonté et un projet suffisamment clair pour se débrouiller, on est au 21e siècle, pour ne pas être enceinte juste au moment de la mission.
Voilà.
Nathalie Guibert, vous publiez « Je n'étais pas la bienvenue aux éditions Paulsen. Donc, un mois passé à bord de ce sous-marin nucléaire d'attaque. Est-ce que vous avez dû vous préparer ? Est-ce qu'il y avait une préparation technique, physique avant de partir ?
Alors, il y a eu une préparation un peu surprenante pour moi, c'est-à-dire des choses un peu techniques, effectivement, des cours de navigation. On m'a appris à écouter au sonar les bruits de la mer. On m'a appris à accompagner le barreur du sous-marin pour être barreur de renfort. L'idée, si vous voulez, c'est que pour faire accepter ma venue dans la communauté sous-marine, il fallait convaincre tout le monde que je ne serais pas une valise, comme ils disent. C'est-à-dire que j'allais avoir un rôle. Et derrière ça, il y a quelque chose de très sérieux, c'est que il n'y a pas d'homme en trop à bord et chacun a plusieurs rôles. Et s'il y a un problème, il faut que chacun puisse remplir une fonction.
Il fallait que vous puissiez barrer. Alors, ce sous-marin, au cas où les 74 membres d'équipage tombent dans les vapes, c'est quoi l'histoire ?
Soyons raisonnables. Non, je n'aurais pas barré, mais barreur de renfort, c'est celui qui soulage un petit peu le barreur, qui lui conduit dans les trois dimensions, en avant, en arrière, en haut, en bas, d'accord. Et puis en bougeant l'angle du sous-marin. Et le barreur de renfort, il prend juste un cap. Ça le soulage d'une des dimensions.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
C'est un vilain défaut.
Nous partions dans un beau sous-marin vert, un sous-marin vert, vert comme la mer. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Nous partions dans un beau sous-marin vert, un sous-marin vert.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Alors ça, c'est un trio, ça. Enfin, un trio, et plus que ça, même les Beatles.
Ils chantent tous la même chanson, ma parole.
Et Maurice Chevalier, on s'y perd un peu. Il est jaune, il est vert, ce sous-marin. En tout cas, le nôtre, il s'appelle La Perle. C'est un sous-marin d'attaque français dans lequel s'est enfermé, c'est le mot, la journaliste du Monde, Nathalie Guibert. Vous racontez cette histoire dans un livre publié chez Paulsen. Tiens, comment vous êtes accueillis ? Allez, on revit le premier jour, là. Vous arrivez comment sur ce sous-marin ?
Avec un sac ?
Vous partez du port ou vous êtes élitreuillé en pleine mer ?
Non, alors je suis partie du port, effectivement, et j'ai pris à Toulon la petite barcasse du militaire qui peut emmener quelques passagers un peu au large, montés dans le sous-marin.
Mm-hmm. On vous avait dit pas trop d'affaires ?
D'affaires, non. Alors il compte 100 kilos, l'homme et son paquetage compris. Et puis il ne faut vraiment pas en prendre plus parce qu'on ne peut pas le caser. Donc j'ai abordé comme ça le sous-marin par l'extérieur, j'ai grimpé à bord, quelqu'un a pris mon sac, puis je me suis retrouvée là-dedans comme tout d'un coup quand on rentre dans le théâtre que la pièce a déjà commencé quoi. On rentre dans le noir et puis on essaye de distinguer qui est assis à côté de soi.
Parce qu'il fait sombre, commence. Vous dites on entre dans le noir, il fait sombre dans un sous-marin ?
Il fait sombre dans le centre des opérations qui est sous le massif, qui est la pièce où on conduit le sous-marin, où on le fait plonger, où on procède à toutes les activités militaires.
Le massif, c'est quoi ? C'est ce truc un peu gros qu'on voit à l'extérieur ?
C'est cette grosse cheminée que vous voyez par-dessus le tube, voilà.
Donc là, ça, c'est le centre des opérations. Donc ça veut dire que c'est vraiment un lieu stratégique du sous-marin. Vous y entrez directement, Nathalie Guibert. Alors, on vous laisse comme ça
alors
découvrir.
Alors non, je suis guidée. Quand je rentre, je suis guidée par le commandant second qui commence à me présenter à quelques marins. Et alors là, je fais une gaffe monumentale. Instinctivement, je serre la main d'un type dans le centre opération. Et bon, il me serre la main. Je lui dis bonjour. Il me dit bon, alors ça, c'est la dernière fois. On ne se serre pas la main à bord.
Ah bon ? Pourquoi c'est la superstition ?
Alors,
on se fait la bise ?
On ne se fait pas la bise, on ne se serre pas la main.
On se
côtoie tellement toute la journée quand on n'a pas besoin. Mais
c'est pas pour éviter les contacts humains, pour les virus ?
Oui,
ou, ouais,
une question d'hygiène à l'origine. Et puis, bon, au bout d'un moment, on ne va pas non plus
d'accord.
Perdre du temps
bon,
avec ça.
Donc ça, c'était réglé, on ne se serre pas la main. Est-ce que vous savez... quelle est la mission du sous-marin dans lequel vous vous embarquez ? Est-ce que vous savez où vous allez aller depuis tout le
temps ? Alors, au départ, non. Et puis, progressivement, oui, on me tient informée quand même de tout ce qu'on va faire. Donc, on a d'abord navigué un peu dans la Méditerranée, jusqu'à même chasser, à un moment donné, un bateau russe qui était venu un peu trop près, fureter près des côtes françaises, entre les bouches de Bonifacio et le large de Toulon. Et puis après, au bout de une bonne semaine, 10 jours, on est parti vers l'Atlantique.
Pour quelle mission, vous saviez ? L'idée, c'est de protéger notre territoire, c'est de surveiller, d'espionner ?
Voilà, ces petits sous-marins, en réalité, ils font des tas de choses très différentes. Et bon, ils protègent les côtes, ils sont là en garde, effectivement, pour pas qu'il y ait d'incursion de qui que ce soit un peu trop près. Ce qui est la tentation de beaucoup de marines, amis ou ennemis, d'ailleurs. Et puis, par ailleurs, il est chargé d'ouvrir un peu la route pour les plus gros qui portent la bombe nucléaire. Et donc, il engrange des sons, il identifie tout ce qui peut naviguer sur la mer de façon à être certain que le jour où on rencontrera un autre navire, il sera inoffensif. Après, il a d'autres missions plus sportives, j'allais dire, avec les commandos pour des missions à terre, d'attaque à terre, par exemple.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils accueillent à bord des commandos marines, par exemple,
Oui, les sous-marins d'attaque sont prévus pour accueillir des commandos et pour les lâcher à terre, soit pour des missions d'infiltration, soit pour des missions d'exfiltration, par exemple, de personnalités que la France voudrait protéger. Ça, c'est une de leurs missions fondamentales.
Mission antiterroriste, par exemple, on peut imaginer un commando qui va détruire une cible, on va
tout
dire
à fait.
Ça comme ça.
Tout
d'accord.
À fait.
Dans ce sous-marin, Nathalie Guibert, vous rencontrez, alors pas d'un coup, évidemment, j'imagine, 75 marins. Ces marins, vous n'avez pas le droit de donner leur nom et leur prénom. Est-ce qu'ils vous les ont donnés ? Vous saviez à qui vous côtoyez ?
Oui, alors quand même, pour moi, on m'a donné un petit organigramme de l'équipage. Et puis, j'ai pu comme ça éviter non seulement de faire des gaffes, mais aussi j'ai pu appeler les gens par leur nom. Mais c'est vrai que la loi interdit de les nommer publiquement dans la presse.
Sauf le commandant.
Sauf le commandant, bien sûr, qui est lui aussi qui a un rôle de représentation, qui peut prendre la parole en public.
Nathalie Guibert, on a entendu là depuis tout à l'heure avec André Facetta, notre réalisateur, ce bruit là qui est vraiment le bruit symbolique d'un sous-marin, ce bip là. Est-ce qu'on l'entend vraiment ou est-ce que c'est un fantasme de cinéma ?
Alors c'est un peu un fantasme de cinéma, c'est-à-dire que ce que vous entendez là, c'est le bruit dans le sonar d'un navire. Et après, vous avez ce bruit-là, mais modulé de façon infinie, selon la physionomie, oui, des navires auxquels vous avez affaire.
Mais, parce que c'est un signal qu'on envoie, et en fonction de la forme qu'on que le sonar rencontre, c'est ça, si j'essaye de bien comprendre, le bruit va être différent, c'est ça ?
Les sonars, en fait, c'est des hydrophones, hein, qui sont, alors sur les sous-marins, essentiellement passifs, c'est-à-dire que pour être discrets, ils ne vont pas émettre des bruits et recevoir l'écho. Bon, ça change un peu parce que la technique fait qu'on peut avoir des sonars actifs discrets, mais retenons que le principal, c'est un sonar passif, donc il est branché sur les ondes. Et il capte des bruits, donc il capte des bruits d'animaux,
oui.
Et puis il capte des bruits de bateaux, de paquebots, voilà, tout ce que
d'accord.
vous pouvez imaginer. Et puis, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est capter des bruits de bateaux de guerre. Donc,
et ça, il y a des oreilles, il y a des gens dont le métier est de reconnaître un bateau par rapport à un autre, c'est
absolument,
ça
ouais, oui. Alors on les appelle les oreilles d'or, c'est, très, c'est toujours très fascinant, effectivement. C'est des gens qui ont appris, comme les nez dans l'industrie du parfum apprennent à retenir des milliers d'odeurs, ces gens apprennent à connaître et à retenir des milliers de sons et dont sont capables de dire c'est le paquebot France, c'est le sous-marin anglais qu'on entend à ce moment-là.
Même le week-end, la curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Vivre en immersion pendant 4 semaines dans un sous-marin nucléaire d'attaque, c'est le défi que s'est lancé la journaliste du Monde, Nathalie Guibert. Vous ramenez de cette aventure un livre, Je n'étais pas à la bienvenue, c'est publié chez Paulson. On a visité ce centre opération qui est vraiment le cœur opérationnel du sous-marin nucléaire, avec ce sonar qui permet d'entendre les navires de guerre et même des bancs de crevettes. Et on s'est demandé, mais le périscope, ça existe toujours dans un sous-marin ou c'est une image d'épinal ?
Et figurez-vous que ça sera bientôt une image d'épinal parce que ça va bientôt disparaître, mais le périscope existe bien encore pour quelques années. Donc vous avez cette image que vous voyez dans les films du commandant qui est avec les mains sur le autour du périscope, qui tourne et qui observe ce qui se passe à l'extérieur. Donc,
mais le périscope, il sort de combien de mètres du sous-marin ? Enfin, ça ressemble à quoi ?
Le sous-marin peut sortir ses mâts périscopiques. Périscopique quand il est à 16 mètres sous la surface. Donc il est discret, il sort son périscope, il observe sans être vu a priori.
Par quoi il va être remplacé, ce périscope ?
Alors,
technologiquement,
mât qui sort comme ça du massif va être remplacé par un nouveau système qui en fait ne traversera plus la coque et qui sera ce qu'on appelle un mât optronique.
Voilà, je ne comprends pas.
C'est une nouvelle technologie qui permet d'espionner, d'observer au-dessus de la surface de l'eau sans avoir un mât qui va percer la coque et être hissé et rabaissé à chaque fois que le sous-marin monte et descend.
Donc voilà. Il sera en permanence en extérieur, il donnera des images à l'extérieur en permanence.
On ne le verra pas,
sorte,
on le verra pas. Plus de l'extérieur, mais ouais. Il permettra effectivement le même résultat, voire beaucoup mieux évidemment.
Ce sous-marin, il est pas grand, il fait 75 mètres de long, quelques mètres de large. C'est vraiment une vie de promiscuité que vous avez vécue, c'est-à-dire que ces marins, ils vivent... pardonnez-moi l'expression, mais les uns sur les autres, on se croise, on se frôle tout le temps, c'est ça la vie dans un sous-marin ?
On ne peut pas se déplacer sans se toucher, effectivement. Donc on est au début très embêté, on ne sait pas où se mettre, on s'assied là où il ne faut pas, on rentre son ventre, on dit pardon, on prend la pose égyptienne de profil toute la journée. mais oui, bien sûr, parce qu'en réalité, quand vous êtes assis chez vous à une table pour 6 personnes, là vous êtes à 30 dans le même espace, donc tout le monde est tout le temps en train d'avoir un contact avec les autres.
Et pour dormir alors, vous avez le droit de vous allonger quand même ? Vous êtes allongé debout, vous êtes rangé dans des placards, ça marche comment dans un sous-marin ?
Et pour dormir, vous avez une petite bannette qu'on appelle la niche, tout est dit. Hein, donc c'est quelque chose d'assez minuscule avec un petit rideau. Vous êtes tranquille tout seul dans votre niche, mais elle n'est pas grande et les marins partagent des chambres collectives.
Oui, et donc vous avez dû partager, puisque vous nous l'avez expliqué, pour l'instant il n'y a pas de carré réservé aux femmes dans les sous-marins français. Ça va arriver, mais pour l'instant il n'y en avait pas.
Voilà, donc j'ai partagé une chambre, la chambre qu'on appelle la chambre à 5. Il y a 5 officiers, donc j'ai eu droit à la petite bannette du bas à droite, qui n'était pas la plus confortable, mais bon.
Ah, ils auraient pu vous laisser la plus confortable.
Non, mais quand même, ils travaillent, donc ils avaient pris celle du haut où on peut s'asseoir et sortir son ordinateur.
C'est très hiérarchisé, j'imagine.
C'est
dans l'armée.
C'est extrêmement hiérarchisé.
Ouais.
La marine, en règle générale, hiérarchise et cloisonne beaucoup ses équipages entre les officiers, les sous-officiers et les équipages. Et chacun doit rester à sa place. Il ne faut pas déroger à ces règles, qui sont parfois des règles un peu invisibles. Hein.
On la rend joue, la nourriture, pardon, je pense à me nourrir, mais dans un sous-marin, on dit qu'il n'y a pas de place.
C'est l'heure où Sylvie commence à avoir envie de croquer quelque chose.
Il n'y a pas des grands placards avec de la nourriture, c'est un peu planqué. Alors, partout, ça se passe comment? Parce qu'il faut nourrir tous ces bonhommes et cette bonne femme.
Bien sûr, d'autant qu'on mange très bien et beaucoup pour garder le moral. Mais effectivement, il y a une chambre froide, mais au-delà de ça, j'ai trouvé de la nourriture partout. Donc derrière les cloisons, il y avait des paquets de pain de mie qui étaient cachés là. Sous la salle des torpilles, je voyais des sacs d'oignons frais. Et puis un jour, je suis allée à l'arrière du bateau et là, j'ai vu des jambons qui pendaient entre les machines. Donc en fait, effectivement, on essaye d'en mettre partout pour tenir le coup le plus longtemps possible.
Très rapidement, ce sont des athlètes, les marins, les officiers. Ils font du sport comment pendant un mois où ?
Ils font peu de sport, ils essayent. Ils font quelques pompes au milieu de la salle des armes, des torpilles à l'avant. C'est pas du tout fait pour ça. C'est extrêmement étroit. Vous avez des poches de CO2 qui restent coincées là, donc parfois ils s'évanouissent. Mais les jeunes générations, effectivement, font plus de sport que les anciennes. Donc ils essayent tant bien que mal, mais pas assez. Donc du coup, ils grossissent parce qu'ils travaillent.
Parce que la moyenne d'âge, c'est 27 ans dans ce sous-marin nucléaire d'attaque. Merci beaucoup, merci. Nathalie Guibert. C'était passionnant. Un livre que l'on vous recommande, Je n'étais pas la bienvenue, c'est aux éditions Paulsen. Qui a dit que vous étiez un ours mal léché? On découvre tout de suite d'où vient cette expression, les curieux.
Même le week-end, la curiosité est un vilain défaut.